Oui, c'est devant celui qui est Alpha et Omega, le commencement et la fin, c'est devant lui que nous nous asseyons maintenant afin de lui tendre une oreille attentive et de recevoir de lui sa parole. Sans plus tarder, je vous invite à incliner vos têtes dans la prière. Nous voulons demander à Dieu de nous parler. Seigneur, nous voici une fois de plus devant toi. Cette fois-ci, Seigneur, pour implorer ta grâce sur nous alors que nous nous apprêtons à recevoir ta parole. Nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour comprendre cette parole, pour finalement, Seigneur, la mettre en pratique. Renouvelle notre intelligence par l'action vivifiante de ton Esprit. Renouvelle notre intelligence et rends-nous capables et sensibles, Seigneur, à toi et à toi seul, capables de saisir ta parole, mais aussi de la mettre en pratique. Bénis ton serviteur, aide-le, Seigneur, à proclamer ta parole de manière claire, persuasive, convaincante, afin d'amener ton peuple, Seigneur, à adhérer à la vérité de ta parole. Nous avons besoin de cette parole car elle est la nourriture dont nos âmes ont besoin. Elle est ce pain de vie, Seigneur, cette manne qui descend d'en haut. Ô Dieu, manne dans laquelle nous trouvons tous les nutriments indispensables pour une vie plus épanouie, plus victorieuse. Seigneur, c'est ta parole qui nous rend capables de discerner tes voies. Seigneur, de comprendre ce que tu attends de chacun de nous, discerner ta volonté. Mais en même temps, ta parole, par l'action de ton Saint-Esprit, nous rend forts, nous rend capables de la mettre en pratique. Parle-nous, fais-nous, Seigneur, du bien par ta parole. Nous te le demandons, Seigneur, en ton nom. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer donc avec notre thème, à savoir la nécessité de connaître, de comprendre la Bible comme il faut, et ce, en vue d'expérimenter la puissance de Dieu, alléluia. Cette parole est formidable. Cette parole est extraordinaire, elle est vivante, elle est efficace, voyez-vous, mais nous devons savoir comment l'approcher pour pouvoir en tirer la substance nourrissante qu'elle contient, pour pouvoir recevoir la vie que nous trouvons dans la parole. Nous allons relire notre texte, nous allons une fois de plus aller à la rencontre de ces religieux, de ces hommes qui avaient une certaine responsabilité dans le judaïsme officiel, aller à la rencontre de ces gens qui avaient les Saintes Écritures avec eux, mais qui, hélas, l'interprétaient mal et par conséquent rejetaient la parole de Dieu, se trouvant du coup, loin de la face du Seigneur. Marc, chapitre 12, nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans en laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle femme, car les 7 l'ont eue pour femme? » Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur où vous êtes égarés. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande, votre égarement est grand. » Gloire à Dieu. Mes amis, si nous voulons grandir dans le Seigneur, si nous voulons avoir cette assurance de le voir au jour où il reviendra, lorsque la trompette sonnera, si nous voulons, mes amis, expérimenter toutes les grâces que le Seigneur met à notre disposition, si nous voulons que sa victoire, celle qu'il nous a acquise à Golgotha, devienne une réalité en nous, si nous voulons voir des choses extraordinaires s'accomplir dans nos vies, eh bien nous avons tout intérêt à comprendre la parole de Dieu, à savoir exactement ce qu'elle veut dire. Et pour arriver à extraire la vie que contiennent les Saintes Écritures, pour arriver, mes amis, à entrer en contact avec la pensée de Dieu, il y a une certaine manière d'approcher la Bible. Et depuis quelques semaines, nous sommes donc en train de voir comment approcher la Bible, mais aussi comment arriver à grandir encore, à croître en Jésus-Christ, car c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Amen. Et la fois dernière, eh bien, nous avons vu qu'il était important de se laisser enseigner par ceux que Dieu a établis. Cela est important, mes amis. Ceci veut dire que si nous voulons être enseignés par des gens que le Seigneur a établis, par les dons qu'il a fait à l'Église, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de fréquenter des églises qui sont bien structurées, des églises qui sont établies sur le modèle du Nouveau Testament. Alléluia. Il n'est donc pas du tout question d'aller n'importe où, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui se réclame être prophète de Dieu, qui se réclame être je ne sais quel apôtre. Voyez-vous, nous devons faire très attention, les temps sont mauvais. L'ennemi est très rusé. Il essaye par tous les moyens de nous distraire, car il n'est pas du tout content de nous voir un jour partager l'éternité glorieuse avec le Seigneur. Il n'est pas du tout content de nous voir aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il n'est pas du tout content de connaître la vérité de la parole. Comme le Seigneur lui-même a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là où les gens connaissent la vérité, là où les gens, mes amis, comprennent les saintes écritures, il est difficile que la manipulation voie le jour. Il est difficile que ces gens-là soient manipulés d'une manière ou d'une autre. Pour nous permettre de grandir, pour permettre d'atteindre la maturité spirituelle, pour nous aider à aller de l'avant, à croître dans la connaissance et dans la grâce de Dieu, et ainsi ressembler au modèle parfait, ressembler à Christ, eh bien le Seigneur a fait des dons à l'Église. Ces dons, ce sont tous ces hommes, toutes ces femmes qu'il a appelés, après les avoir mis à part. C'est ainsi que nous l'avons vu dans Éphésiens 4, un chapitre important, où le Seigneur a donné aux uns d'être apôtres, aux autres prophètes, aux autres évangélistes, aux autres pasteurs et docteurs. Et cela dans le but, mes amis, de travailler au perfectionnement des saints, d'amener les croyants, les fidèles, à grandir dans la maturité, à devenir adultes, spirituellement parlant, alléluia, à arriver, mes amis, à la connaissance du Fils de Dieu, à ressembler de plus en plus à celui qui est le modèle parfait, à celui qui est le modèle par excellence, à savoir Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes enseignés, en évoluant dans une église établie sur le modèle biblique, dans une église structurée, voyez-vous, lorsque nous nous abandonnons entre les mains des gens que Dieu a établis, qui ont reçu quelque chose pour qu'ils nous encadrent, pour qu'ils nous nourrissent, pour qu'ils nous accompagnent, alors, mes amis, nous connaîtrons une croissance normale. Alléluia. Et nous ne serons plus des enfants spirituels ballottés par toutes sortes de vagues d'enseignements hérétiques. Nous ne serons plus, mes amis, des hommes et des femmes manipulés et par toutes sortes d'aventuriers, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous allons résister à tout cela grâce à la connaissance acquise à travers la parole de Dieu. Alléluia. Nous trouvons, mes amis, des églises où les pasteurs se plaisent à laisser leurs fidèles dans l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Pour certains pasteurs, cela est fait à dessein. Parce que lorsque les gens demeurent dans l'ignorance, ils sont alors incapables de savoir si ce qu'on leur dit vient vraiment de Dieu. Ils sont donc incapables de faire de choix qui rencontrent la volonté de Dieu. Ils laissent leurs fidèles dans l'ignorance, quelquefois, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été enseignés. Ils n'ont jamais été pris en charge. Ils n'ont jamais été accompagnés de manière à grandir normalement. Et à leur tour, ils reproduisent ce qu'ils ont reçu, un manque de prise en charge. Et je vous dirais que c'est le drame de nos assemblées aujourd'hui. D'autres donnent à leurs fidèles un peu de lait spirituel. Tout cela pour maintenir les fidèles et les croyants dans un état de dépendance totale vis-à-vis d'eux. Ainsi, ces pasteurs et ces prédicateurs peuvent s'adonner à leur exercice préféré, l'exercice qu'ils affectionnent, c'est-à-dire manipuler les gens, les vampiriser, les dominer, mes amis, au point où ces gens ne peuvent plus décider sans s'être tournés vers le berger, vers le prédicateur, vers le pasteur, pour recevoir une vision, pour recevoir une prophétie. Vous devez grandir, mes amis. Nous l'avons lu, nous devons atteindre la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous devons devenir des adultes spirituels. Ces pasteurs, ces prédicateurs sont des vrais vampires. Ils sont là pour exploiter, pour tirer profit des autres. Oui, Dieu a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, aux autres d'être évangélistes, d'être pasteurs, d'être, docteur. Et tous ont un même point commun, la parole de Dieu, alléluia. Quel que soit l'office, quel que soit le ministère auquel nous appelle, je parle des ministères établis dans l'Église, eh bien tous partagent un même point commun. Tous ont un même dénominateur commun, à savoir la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, ils peuvent alors assumer leur vocation suprême, singulière, qui est celle d'équiper les saints. Il faut que les croyants soient équipés. Équipés pour servir le Seigneur. Équipés pour servir l'Église. Savoir exactement quelle est leur raison d'être. Pourquoi sont-ils dans l'Église de Jésus-Christ? Les équipés. Afin qu'ils sachent comment servir le Seigneur dans la louange, dans l'adoration. Car il ne s'agit pas simplement d'élever les mains, d'ouvrir la bouche et de débiter n'importe quoi. Amen, amen. Ça, n'importe qui peut le faire, mes amis. Et aujourd'hui, pour beaucoup, la prière, c'est simplement une sorte de logorée. On ouvre la bouche et puis les flots, les paroles sortent. On dit, j'ai parlé en langue. Attention. Attention. Avec la parole de Dieu et par les biens de tous ces ministères, eh bien, l'Église du Christ est édifiée. Nous pouvons construire l'Église du Seigneur, amener à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, l'Église, son Église, celle pour laquelle il est mort, amener chaque croyant, chaque fidèle à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à l'état d'adulte. C'est la seule manière, mes amis, d'échapper à la manipulation, de ne pas tomber entre les mains des aventuriers, entre les mains des faux pasteurs, voyez-vous. Encore une fois, ne vous laissez pas attirer par tous ces slogans qu'on trouve, par tous ces publicités tout autour de nous. Voyez-vous, on utilise les gros mots, etc., pour attirer les gens. Et en réalité, il n'y a rien derrière tout ça, si ce n'est de la manipulation, du mensonge, de la tromperie. Aujourd'hui, comme je l'ai souligné, beaucoup d'églises ressemblent à des garderies d'enfants. C'est rempli de bébés spirituels. Certains sont comme des pouponnières. On prend en charge que des bébés. Et on s'est plaît à laisser les gens dans cet état des bébés spirituels parce qu'on peut ainsi les manipuler, les dominer, les exploiter. Ça, c'est anormal. Il faut que nous connaissions une croissance normale, alléluia. Que nous croissions, que nous grandissions à tous égards. Et pour cela, on a besoin d'être nourri avec quelque chose de conséquent, avec quelque chose qui vient d'en haut, et non pas quelques grains de blé spirituel, comme je l'ai dit, glanés ça et là à travers la Bible, quelques ngouba, quelques arachides qu'on donne aux gens. Ce n'est pas avec ça que les gens vont croître. Il faut que les gens arrivent à manger de la nourriture solide. C'est ainsi que nous trouvons des églises qui ressemblent à des vallées remplies d'ossements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. Et pourquoi il n'y a pas la vie de l'esprit? Parce que la parole n'est pas annoncée. Voyez-vous, le Saint-Esprit travaille par et au travers de sa parole. Si nous ne prêchons pas la parole comme il faut, si nous essayons de saupoudrer les gens avec quelques pensées ramassées ça et là, eh bien, ce ne serait pas étonnant que nous ne voyons pas les gens grandir et ressembler à Jésus. Et pour cela, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous qui enseignons, nous serons jugés sévèrement. Je me dois de vous faire grandir. Je me dois de vous donner des choses qui vont vous permettre de mieux connaître le Seigneur, pour mieux le servir. Et gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, faites le tour des assemblées à travers la ville de Kinshasa et un peu partout à travers le monde. Vous verrez que beaucoup de cultes ressemblent à des spectacles comiques, à des spectacles du rire, à des scènes de casino, où les gens viennent et misent. Oh, je voudrais, j'ai appris que voilà, il va y avoir remaniement. Le président va nommer de nouveaux ministres. Alors on essaie d'aller chez un prophète et quand on arrive, eh bien, il a une prophétie. Il dit non, pour ça, il faut donner telle offrande d'une telle valeur. Casino. Casino. Voyez-vous. Attention, mes amis. Un jour, vous aurez des comptes à rendre devant Dieu. Vous ne diriez pas, oui, mais je ne savais pas. Vous le savez. Vous le savez, mes amis, vous êtes seul responsable devant Dieu. Celui qui vous trompe, celui qui vous manipule, eh bien, rendra aussi des comptes à celui qui est notre maître, à celui qui est le berger dont nous sommes les brebis. Alléluia. Et gloire à Dieu. Dans ces églises, frappées par la séduction, marquées par toutes sortes de choses, eh bien, les pasteurs se comportent comme des mercenaires, comme de loups redoutables. Ils sont là pour leur propre ventre. C'est des beaux parleurs, c'est des discoureurs, etc. Voilà donc la tragédie, le drame de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Beaucoup d'assemblées sont prises en otage par des troubadours spirituels d'une espèce rare. Vous savez ça? C'est incroyable. Ils arrivent à manipuler les gens et à transformer les fidèles en du bétail pour le nourrir. Ils viennent, ils se prosternent, ils placent leurs pieds sur leur tête. On lave les pieds, le pasteur lave ses pieds sur les têtes des gens, soi-disant pour les bénir, mes amis. C'est affreux! Voyez-vous? Des mercenaires sans foi ni loi, des vampires religieux, des beaux parleurs au discours grandiloquent, au discours manipulateur, comme je l'ai souligné la fois dernière, des bonimenteurs en tout genre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est de la plus haute importance de fréquenter une église structurée, bien structurée, une église établie sur le modèle du Nouveau Testament. Adhérer à une église où la parole de Dieu est enseignée, alléluia, comme il faut. Et là, dans cette église, vous allez être pris en charge. Vous allez être nourri, vous allez être encadré, vous allez être accompagné tout au long de votre marche avec le Seigneur, alléluia. Et ainsi, vous croîtrez à tous égards en celui qui est notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Donc, la prise en charge est indispensable. Vous devez passer entre les mains des gens que Dieu a établis. Voyez-vous? Et vous avez plus de chances de trouver ces gens-là dans des églises établies que dans toutes ces assemblées qui fonctionnent en marge de certains mouvements bien établis. Alors, la fois dernière, on a parlé, pour illustrer cette vérité, d'être pris en charge, d'être nourri avant d'aller nourrir les autres. Voyez-vous? Car il ne s'agit pas simplement d'être actif au département d'évangélisation, et puis un jour se dire, bon voilà, j'ai appris à faire le porte-à-porte, je vais aller ouvrir une église. Il ne s'agit pas d'acquérir une certaine expérience au groupe d'intercession, et puis de se dire, maintenant, ça y est, j'ai dirigé le groupe d'intercession, je peux aller ouvrir une église. Attention, voyez-vous, il faut que l'église reflète la vérité de la parole, alléluia. Il faut être appelé, il ne faut pas confondre zèle avec appel. Il y a des gens qui sont très zélés, il y a des gens qui parlent très bien, qui exhortent très bien. Ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent tirer la conclusion qu'ils ont été appelés à être pasteurs. Et nous avons pris l'exemple de l'eunuque éthiopien, plutôt du diacre Philippe. Nous sommes dans Actes chapitre 8. L'eunuque éthiopien. C'est l'histoire de cet homme qui était ministre des finances de son royaume, l'Éthiopie au sud de l'Égypte. Cet homme revenait de Jérusalem, assis sur son char, en train de lire le prophète Ésaïe. Oh, très très bonne chose, n'est-ce pas? Quelqu'un qui serait passé à côté de lui et qui l'aurait vu en train de lire le prophète Ésaïe, ou entendre cet homme lire à haute voix, se serait dit, formidable, il a la parole de Dieu, c'est un homme béni, voyez-vous. Il avait donc l'écriture en main, il lisait le prophète Ésaïe, mais la Bible nous dit que cet homme ne comprenait pas ce qu'il lisait. C'était un homme instruit, puisqu'il lisait. À l'époque, ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès à la lecture. Il fallait avoir étudié, etc. Et en plus, il venait d'Afrique. Et donc, il devait apprendre l'hébreu pour pouvoir lire Ésaïe. Peut-être qu'il avait un extrait en grec, mais encore, il fallait connaître le grec. Il lisait, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Alléluia. Et par conséquent, cet homme ne pouvait pas expérimenter la puissance salvatrice de Jésus-Christ. Alléluia. Il lisait sans plus. Il a fallu que le Saint-Esprit puisse envoyer son serviteur, le diacre Philippe, pour que par ce dernier, c'est-à-dire par Philippe, enfin, l'eunuque puisse comprendre les Écritures, ce qu'il lisait dans le prophète Ésaïe, et finalement expérimenter le salut en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce non-juif, il n'était pas juif, en charge des finances de son royaume, converti au judaïsme, a donc été pris en charge par Philippe. Il a donc été aidé par Philippe. Voyez-vous, il aurait pu se dire, monsieur, écoutez, j'ai une intelligence, je lis, je connais l'hébreu, je comprends l'hébreu. Mais il se serait arrêté simplement au niveau de la lecture. Mais cet homme a fait preuve d'humilité. Quand Philippe lui pose la question de savoir s'il comprenait ce qu'il lisait, il a dit, mais comment veux-tu que je comprenne? S'il y a personne qui me guide, oh alléluia. On a besoin d'être guidé pour espérer un jour devenir guide pour les autres. Oh, alléluia. Mes amis, on peut avoir reçu l'appel, mais on doit être encadré. On doit passer par la formation. On doit passer par les mains de ceux que Dieu a établis avant nous. On doit s'ouvrir au conseil. Mais aujourd'hui, on pense que le simple fait d'aller dans une école biblique, d'en sortir avec un diplôme, de fréquenter une faculté de théologie, suffit pour avoir le ministère. Non! Personne ne peut octroyer le ministère. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui appellent, et cela n'a rien à voir avec l'appel du Seigneur. Il faut être sûr. À notre époque, je peux vous assurer que quand quelqu'un entendait l'appel, il réfléchissait 10 fois. Ah oui, la question qui traversait d'abord l'esprit de celui que Dieu a appelé était de savoir comment vivre. Évidemment, à l'époque, les pasteurs n'avaient pas les facilités qu'ils ont aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc c'était pénible. Moi, j'ai connu des pasteurs qui avaient un seul abacos, un seul costume. Et à force de le mettre, eh bien, ça finissait à être plus que décoloré. Il y en a, mes amis, qui allaient à l'église, à pied, pas, l'église ne se trouvant pas à côté de leur maison, sous le soleil. Ou alors qu'ils s'est disputé dans le bus pour trouver une place. Ils restaient debout avec leur Bible. Ils allaient servir le Seigneur avec consécration. Et quand on voyait ça, et qu'en même temps on entendait que Dieu nous appelait, et qu'on recevait tous les signaux de la part du Seigneur, et la confirmation de la part des responsables de l'Église qu'on était appelés, on se disait, mais comment vais-je vivre? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Vous me voyez comme ça en costume. Ah, moi aussi, je voudrais devenir pasteur. C'est ça le drame. Comme nous l'avons souligné, Dieu n'a pas donné le ministère pour créer des emplois, pour inverser la courbe du chômage. Dieu n'a pas donné le ministère pour, eh bien, aider certains qui n'auraient pas trouvé du travail normalement, parce que n'ayant pas de formation appropriée, pour qu'enfin, par le ministère, ils puissent vivre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunisme. Tout le monde est appelé. Pour peu que quelqu'un dirige le groupe d'intercession pendant un temps, c'est fini, et puis vous apprenez qu'il est parti, même sans mon accord, qu'il a ouvert une extension. Et le mot extension aujourd'hui ne veut plus rien dire. Voyez-vous, on part parce qu'on veut vivre. Voyez-vous. Mais vous pouvez servir dans l'église, pas forcément en étant pasteur. Ils sont là. Ils servent, et tant d'autres ce qu'ils servent. Voyez-vous. Ils ne se sont pas battus pour devenir pasteur. Et après, puisqu'on n'a pas été appelé, avec le temps, vous savez, au début, ça va toujours très bien. Quand on est passé par l'école biblique, on commence à reproduire. Quelquefois comme un perroquet, tout ce qu'on a reçu à l'école biblique, à la faculté et tout ça, et 1 an, 3 ans, 4 ans, et après il n'y a plus rien, on commence à inviter tout le temps, voyez-vous. Non, le Seigneur ne peut pas vous confier l'église et en même temps demander à quelqu'un d'autre de venir la bâtir à votre place. Vous avez compris? Eh oui. Vous pouvez être aidé. Mais Moïse a été aidé, mais ni Aaron, ni Hur, ni Josué n'avaient pas pris la place de Moïse jusqu'à ce qu'il s'en aille, que le Seigneur le rappelle. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Philippe est allé, Philippe a guidé, Philippe a encadré, passez-moi l'expression, Philippe a pris en charge, mes amis, cet homme-là, pour lui permettre de comprendre la parole et finalement d'expérimenter le salut en Jésus-Christ. Parlons un peu de Philippe lui-même. Voyez-vous, lisons la Bible. Quand on lit Acte 8, notamment à partir du verset presque à la fin, on a l'impression que Philippe est un électron libre spirituel qui est arrivé comme ça, et puis hop, l'ange lui dit, va sur le chemin qui descend des Gaza à Jérusalem, qui est désert. Et puis l'homme obéit, et puis en partant, le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Et puis il s'approche de ce char, il entend cet homme, ce ministre éthiopien, en train de lire l'Ésaïe. Il n'a pas été un électron libre, il est venu de quelque part, alléluia. Parlons un peu de Philippe. Cet homme n'est pas venu de nulle part. Certes, il avait été envoyé par le Saint-Esprit auprès de l'eunuque éthiopien, mais Philippe, lorsque nous regardons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que Philippe avait été actif dans l'église de Jérusalem, l'église qui était dirigée par les apôtres eux-mêmes. On peut trouver dans Actes 6, les 6 premiers versets. Quand il y a eu des problèmes, voyez-vous, dans l'église de Jérusalem, là où il y avait des apôtres, eh bien, ils ont eu la sagesse de se dire, écoutez, il y avait eu des murmures et tout ça entre les veuves des hellénistes, c'est-à-dire les juifs de la diaspora, et puis les veuves des hébreux, c'est-à-dire des juifs qui vivaient en Terre Sainte. Voyez, certaines femmes trouvaient qu'elles n'étaient pas mieux considérées que d'autres parce que c'était les épouses ou c'était des femmes venues de la diaspora, etc. Ça entraînait beaucoup de problèmes. Et finalement, les apôtres ont décidé, et ils ont dit ceci, c'est pourquoi, nous sommes dans Acte 6, hein, c'est pourquoi, attendez, voilà, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ces discours plurent à toute la multitude, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et puis Philippe, et puis la liste continue, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, hein, si vous êtes enceinte, voilà les noms, hein. Nicanor, Procor, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils présentèrent les 7 aux apôtres, qui après avoir prié, leur imposèrent les mains. Que voyons-nous donc à propos de Philippe? Nous voyons que cet homme a évolué dans l'église de Jérusalem ou évolué dans l'église de Jérusalem où il était actif. Donc ce n'était pas un électron libre qui est apparu comme ça et puis, oh tiens, l'ange m'a dit, j'ai reçu une vision, je pars. Oui, Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre, mais ce sont des cas rares. Voyez-vous, même lorsque Paul est parti en mission, et pourtant le Seigneur lui avait dit, hein, il avait dit à Ananias, cet homme, eh bien, est un vase, littéralement, est un instrument entre mes mains pour le salut des nations, etc. Même lui, nous le retrouvons à Antioche, Acte 13, où il était actif aussi. Et c'est là, pendant qu'il jeûnait et priait, que le Saint-Esprit parla. Mettez pour moi à part Barnabas et Saul. Ils étaient à l'église, hein? Oui ou non? Une église structurée. Ce n'était pas un petit groupe, non, pas du tout. Ensuite, il avait un bon témoignage et rempli d'Esprit Saint. Pour avoir un bon témoignage, il faut être actif, oui ou non? Il faut être connu, voyez-vous. Donc c'est quelqu'un qui était très actif dans son église à Jérusalem. Il avait un bon témoignage, il pouvait encourager les gens, il pouvait les exhorter, etc. Donc à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'il va être choisi comme diacre, c'est-à-dire s'occuper des responsabilités matérielles dans l'église. Les apôtres vont se décharger. Ils se sont dit, nous allons persévérer, nous allons nous consacrer à la prière et au service de la parole, alléluia, enseigner les gens. Donc il a profité du ministère des apôtres. Il a donc été encadré. Jusqu'à ce que nous le retrouvions, toujours dans Acte 8, voyez-vous, nous le retrouvions à partir du verset 5, dans une ville de la Samarie. Et là, cet homme va prêcher, évidemment, il y a la persécution qui a commencé, et il se retrouve en Samarie, dans une ville de la Samarie, il prêche la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y eut beaucoup de conversions, beaucoup de miracles, et beaucoup de délivrances. Et parmi les convertis, il y avait un ancien magicien, un homme qui était autrefois un pion du diable pour tromper les gens, pour les manipuler, pour les maintenir dans une sorte d'esclavage. Et quand les apôtres apprennent que la parole était arrivée en Samarie, que Dieu se glorifiait puissamment, ils ont décidé d'envoyer Pierre et Jean. Philippe était là. Ils ont envoyé Pierre et Jean, et quand eux ils sont arrivés, eh bien, ils ont prié pour les convertis afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Philippe était un homme qui avait été pris en charge, qui avait bénéficié, mes amis, de l'encadrement des apôtres. Il était dans une église structurée, pas dans une petite boîte d'allumettes spirituelle. Voyez-vous? Et il est resté ouvert. Quand il est arrivé, mes amis, et qu'il a vu tous ces résultats, il ne s'est pas dit, tiens, c'est formidable, je vais commencer une extension de l'église de Jérusalem ici en Samarie. Non, on l'aurait fait tout de suite. Non, Philippe savait c'est en quoi le Seigneur l'appelait. Il est resté ouvert. Les apôtres arrivent. Les apôtres prient, le Saint-Esprit descend. Et dans ce contexte-là, la Bible nous dit, un ange parla à Philippe. L'ange du Seigneur parla à Philippe, va, lève-toi, va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, ce chemin qui est désert. Eh bien, Philippe obéit. Imaginez-vous un peu, s'il s'était dit, voilà, non, il y a beaucoup de conversions et tout ça, je reste, je vais ouvrir une extension. Ben, il n'aurait pas été utilisé comme Dieu l'a utilisé, alléluia. Il a laissé les apôtres continuer le travail. Le Seigneur lui en parlait, et lui dit, mais non, quitte la Samarie, descends. C'est vers la bande de Gaza, hein, pour ceux qui connaissent un peu Israël. Descends sur ce chemin-là, vers Gaza. Et il est parti. Il ne savait pas, mes amis. Le Seigneur ne lui avait pas dit, descends, tu vas voir, tu vas pêcher un gros poisson. Pas du tout. Il a simplement obéi, alléluia. Il est parti. Et là, sur place, que voit-il? Il voit un char et quelqu'un assis sur ce char, et le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Il s'approche de ce char, il tend l'oreille, et il entend que cet homme assis, cet homme retourné, donc il quitte le nord Israël, il descend, hein. N'oubliez pas que l'Éthiopie se trouve au sud de l'Égypte, et ce qu'on appelait Éthiopie à l'époque, c'est pas seulement l'Éthiopie actuelle, mais aussi une partie du Soudan, donc Khartoum et tout ça, et bien donc il descendait, et là il s'approche, et là il entend. Et nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Il va gagner ce ministre au Seigneur. Et d'après l'histoire, quand ce ministre-là va arriver chez lui en Éthiopie, eh bien il va apporter à son tour le message de l'Évangile. Voilà comment la bonne nouvelle est arrivée en Afrique. Alléluia! Et gloire à Dieu! Voyez-vous? Donc, cet homme a été pris en charge par d'autres. Il a évolué dans une église. Et puis un jour, le Seigneur l'a utilisé autrement. Et si vous lisez la suite, après avoir baptisé le nuque éthiopien, la Bible nous dit, il disparut. Le Saint-Esprit l'enleva, le Seigneur l'enleva. Et il se retrouve où? Dans une ville, Azot. C'est-à-dire, c'est l'ancien Asdod, hein, pour ceux qui lisent l'Ancien Testament. Asdod, à cette époque-là, ça s'appelait Azot. Et là, il continua son travail d'évangélisation. Il remonta jusqu'à Césarée, c'est-à-dire sur la Méditerranée, là où il y avait le siège du gouvernement romain. Il faut savoir qu'à l'époque, Israël était occupé par Rome. Eh bien, le siège du gouvernement romain n'était pas à Jérusalem. Ça se trouvait à Césarée, une ville au bord de l'océan et où il y avait un port. C'est ainsi que quand vous lisez les voyages missionnaires de Paul, soit il va revenir par Césarée, parce que c'était un port en face de Chypre, et puis de là, il remonte vers Antioche, vers la Syrie. Il va remonter jusqu'à Césarée. Et là, plus tard à Césarée, est-ce lui ou d'autres, on n'en sait rien, mais toujours est-il que, là à Césarée, une église va finir par voir le jour. Dans Actes chapitre 17, Paul, 22 si vous voulez lire, hein, Paul passera par Césarée en route vers Antioche pour aller rendre compte de sa mission, et puis Jérusalem, et là à Césarée, la Bible nous dit qu'il alla saluer l'église. Alléluia. Philippe avait été là avant. Donc vous voyez mes amis, il avait été pris en charge. Il ne s'est pas improvisé évangéliste. Voyez-vous, il n'a pas dormi, il s'est réveillé, il dit, mais tiens, je suis évangéliste. Oui, Dieu appelle qui il veut, mes amis. Il y en a qui reçoivent des appels de manière extraordinaire. Même ceux-là ont besoin d'être pris en charge. Être enseigné, être accompagné. Donc Philippe, avant d'aller prendre en charge l'eunuque éthiopien, lui-même avait été aussi pris en charge, accompagné, instruit par les apôtres. Il était ainsi préparé à aider les autres. Alléluia. Mais ça, dans le cadre d'une église structurée, pas une églisoïde. Enfin, le dernier exemple, et nous arrêterons là, c'est l'exemple d'Apollos, que nous connaissons bien, que tous les lecteurs de la Bible connaissent, voyez-vous, surtout dans le livre des Actes, mais aussi dans 1 Corinthiens. Eh bien, Apollos, acte 18, versets 24 à 28, si on peut afficher ça, s'il vous plaît. Il est question d'un juif nommé Apollos. La Bible nous dit qu'il était originaire d'Alexandrie, Alexandrie qui est encore une ville portuaire sur la Méditerranée, donc en Égypte. Et à l'époque grecque, donc à l'époque hellénistique, Alexandrie était un centre de haute culture intellectuelle. Il faut savoir que quand on parle de la Bible de la Septante, c'est-à-dire la première traduction de la Bible hébraïque dans une autre langue que l'hébreu, c'était en grec, eh bien, cette traduction avait été faite à Alexandrie. Donc, nous pouvons comprendre pourquoi on nous dit que cet homme était un homme éloquent. Voyez-vous, c'était une ville d'intellectuels. Et le grec qui était parlé, par exemple, à Alexandrie, était un grec pur, un grec académique. Voyez-vous? Donc, il nous est dit que c'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Oh, alléluia! Il était instruit dans la voie du Seigneur, si on peut, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, oh alléluia. Donc, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême des gens. Donc, il lui manquait quelque chose. Voyez-vous, il enseignait. C'était un homme instruit, un homme éloquent, un homme qui connaissait les Saintes Écritures. C'était un juif, donc forcément, il avait la connaissance de la Torah ou du Tanakh, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, donc la loi, les prophètes et les autres livres. Il connaissait, il a eu à rencontrer le Seigneur, à croire en lui, et ensuite à se mettre à enseigner, à instruire les gens dans la voie du Seigneur. Et gloire à Dieu. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Et voilà que cet homme arrive à Éphèse. Et s'est mis à parler ouvertement dans la synagogue. Et là, il va faire la connaissance d'un couple. Un couple de chrétiens. Priscille et Aquila, ou Aquilas. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il avait la connaissance, il connaissait pas mal de choses. Voyez-vous, mais il lui manquait encore quelque chose. Eh bien, ce couple va le prendre en charge à Éphèse. Peut-être même qu'il a fréquenté l'église d'Éphèse. Vous voyez? Et puis ensuite, plus tard, Plus tard, cet homme va partir en Achaïe. C'est la province dans laquelle se trouve encore la ville de Corinthe. Et là, à Corinthe, il va avoir un ministère béni. Certains vont être même charmés par son éloquence. Voyez-vous? Et ceci avec le temps, comme c'était une église qui avait reçu la visite de beaucoup de grands prédicateurs, de gros calibres, de la parole de Dieu, comme Pierre, comme Paul. Apollos aussi est passé par là, et cela avait fini par entraîner des divisions, où certains disaient, oh là là, moi je suis d'Apollos. Cet homme, il faut l'écouter, c'est un grec. Voyez. D'autres disaient, oui, mais certes, il est très éloquent, il parle très bien. Mais moi, tu sais qui m'a gagné à Jésus, qui m'a amené dans cette église à Corinthe? C'est Pierre, hein? Vous connaissez qui est Pierre? Lui, il a vécu avec Jésus. D'autres disaient, oui, mais c'est bien, mais qui a commencé cette église? C'est Paul, non? Nous sommes les premiers, les compagnons de la révolution paulinienne. Nous avons mangé avec Paul. Voyez. Donc, il va connaître un ministère béni. Mais à un moment de sa vie, malgré son érudition, malgré la maîtrise qu'il avait des Saintes Écritures, cet homme a eu besoin que le couple chrétien Priscille et Aquila puisse le prendre en charge, puisse lui apporter ce qui lui manquait. Et après tout ça, il part et connaîtra un ministère béni. Mes amis, le temps me manque pour parler d'autres exemples. Pensez au jeune Samuel dans 1 Samuel 3. Vous pourriez lire tous les passages. Dieu l'a appelé au début, il était encore jeune. Au début, il a confondu la voix de Dieu avec celle des hommes. Il est allé vers le vieux sacrificateur en lui disant, mais tu m'as appelé. Il lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher, mon fils. Il se rendort, de nouveau le Seigneur vient, l'appelle Samuel, Samuel. Il se relève, il dit, mais j'ai bien entendu mon nom. Il y a quelqu'un qui m'appelle, il va, il réveille le sacrificateur. Ben, a dit, non, non, pour la troisième fois, le sacrificateur comprend que non, c'est Dieu qui a appelé ce jeune homme, alléluia. Samuel va être encadré pour devenir plus tard sacrificateur et prophète. Alors mes amis, nous avons besoin d'être encadrés, d'être nourris, afin qu'à notre tour, nous puissions nourrir d'autres. Alléluia. Nous devons donc faire très attention à l'autodidactie, à l'autodidactisme ou autodidactie spirituelle ou religieuse, c'est-à-dire le fait de s'enseigner soi-même. C'est là que naissent beaucoup de sectes. Voilà. Beaucoup de sectes sont nées comme ça. Voilà. Dieu a parlé à quelqu'un. Quelqu'un était malade, il lui a dit, écoute, prends ton mouchoir, mets sur lui, il va être guéri. C'est une instruction du Saint-Esprit. La personne part, prie, il y a guérison et c'est fini. Il dit, désormais, il faut bima. C'est comme ça, hein? Parce qu'on n'a pas de gens pour vous dire, oui, Dieu t'a demandé, mais tu ne dois pas ériger cette instruction ponctuelle en doctrine. C'est-à-dire, désormais, tous les malades venaient, Et puis vous prenez le mouchoir, vous commencez à passer et tout ça, et par ces temps de Covid. Et surtout si avant de venir à l'église, vous avez chopé un rhume. Venez. Donc vous voyez mes amis, nous ne devons pas nous instruire nous-mêmes, nous avons besoin d'être encadrés. Voilà pourquoi il y a des enseignements, voilà pourquoi il y a ceci, cela. Et sinon, nous risquons de tomber entre les mains des troubadours de tous bords, entre les mains d'aventuriers, et puis de passer à côté. Peut-être que le Seigneur a quelque chose à nous révéler. Il veut nous communiquer quelque chose comme à Philippe. Mais Philippe est resté soumis. Quand les apôtres sont arrivés, il a reconnu leur autorité, puisqu'il avait été enseigné par eux. Il a attendu jusqu'à ce que le Seigneur lui parle et dit, maintenant, quitte la Samarie, va vers Gaza. Et il a obéi, il est parti. Et même là, il n'a pas ouvert une autre extension. Il a évangélisé. Peut-être que l'église a fini par voir le jour. Lui, il a continué. Et si vous lisez dans Acte 8, vous verrez que partout il passait, à travers toutes les villes, par lesquels il passait, il évangélisait jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Et là, à Césarée plus tard, une église verra le jour. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Merci. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous continuerons la fois prochaine. Cette fois-ci, nous parlerons de la puissance de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous verrons le lien entre la puissance de Dieu et la compréhension de la parole, le Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à lire, à méditer ta parole, à être de véritables bibliophages, des gens qui mangent ta parole, qui la lisent régulièrement, qui la méditent. Car c'est seulement de cette manière que nous grandirons en toi, que nous pourrions comprendre, Seigneur, déceler les différents dons que tu nous as accordés, les talents dont tu nous as dotés pour finalement le mettre au service des autres chrétiens dans le cadre de ton assemblée. Merci Seigneur, merci pour tout. Bénis maintenant Seigneur les services des offrandes et des dîmes au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Alors pendant que les paniers des offrandes